Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, est-ce que Donald Trump a réussi à déclencher une guerre commerciale internationale ?
Il est actuellement assez difficile de décrypter exactement ce qu'il fait parce que il y a encore 2 semaines, il traitait l'Europe d'ennemi économique. L'Europe, dans le même temps, disait qu'elle négocierait pas sous la pression. Et puis, il y a une semaine, on a eu cette annonce d'un cessez-le-feu, disons, d'un accord ou l'annonce de peut-être un accord futur entre les États-Unis et l'Europe. Donc, on a l'impression qu'il est en train d'apaiser ce front-là. Dans le même temps, il négocie beaucoup avec ses voisins dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, l'ALENA.
Mexique-Canada.
Apparemment, l'administration espère aller aussi vers peut-être un apaisement sur ce front-là. Donc, on a plutôt l'impression actuellement que peut-être l'administration américaine serait en train de concentrer son effort, disons, de tension et de pression sur la Chine.
Concentrer le tir sur la Chine.
Absolument. Que peut-être, finalement, cette stratégie qui a consisté à ouvrir tous les fronts à la fois se retourne un peu contre l'administration. Il y a quand même un certain nombre de mécontents, des mécontentements qui s'expriment aux États-Unis, à la fois évidemment depuis longtemps d'ailleurs par les milieux d'affaires, y compris par certaines annonces qui ont fait, je pense, un peu mal politiquement. Évidemment, on a beaucoup parlé d'Harley Davidson, disons que annonçant que peut-être ils allaient délocaliser une partie de leur production, mais aussi Coca-Cola, par exemple, disons qu'il allait augmenter le prix de ses canettes. Et même les syndicats ont exprimé...
Alors, il faut expliquer pourquoi Coca-Cola menace d'augmenter le prix des canettes.
Oui, pardon. Pour répercuter la hausse des prix de l'acier consécutive aux droits de douane et de l'aluminium consécutive aux droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations. Donc là, c'est une répercussion, disons, concrète et précisément une chose que veut absolument éviter Donald Trump et d'ailleurs son administration, c'est que ces taxes sur les importations apparaissent comme des taxes à la consommation.
Alors, vous avez évoqué la relation entre les États-Unis et l'Europe. La dernière rencontre de haut niveau entre Washington et Bruxelles, c'était la semaine dernière, le face-à-face entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président Trump. Alors, on aurait aimé être une petite souris à y mettre là, parce que c'est quand même deux personnages. Ils en sont sortis très satisfaits en annonçant leur volonté de supprimer la quasi-totalité des tarifs douaniers. C'est fait ?
Ah non, je pense que c'est loin d'être fait. C'est une annonce que sur le fait qu'on va discuter, qu'on va essayer de se mettre d'accord. C'est très étonnant à beaucoup d'égards, parce que Jean-Claude Juncker, de toute façon, n'avait pas de mandat. La Commission européenne, quand même, il y a un certain nombre de règles en Europe sur la politique commerciale. On fait pas n'importe quoi. Donc là, il arrive, il a pas de mandat. Il annonce qu'on va faire un accord. Bon, on sait pas très bien de quoi il s'agit. Cet accord, enfin, les annonces, elles sont assez peu cohérentes d'une façon générale. Ça n'est pas cohérent ce qui a été annoncé avec les règles de l'OMC. Parce que ça exclut toute une partie de l'économie, l'agriculture et l'automobile. Ça n'est pas possible, ça n'est pas cohérent avec le droit OMC d'exclure une grande partie de l'économie dans un accord bilatéral. On annonce qu'on va acheter plus de soja et de gaz naturel liquéfié, mais enfin, ce n'est pas l'État qui achète, ce sont les entreprises. Donc, comment on va faire ça? On ne sait pas. Donc, voilà, tout ça est extrêmement ambigu et manque de cohérence. Donc, moi, je l'interprète surtout comme l'annonce qu'on va essayer de calmer le jeu sur ce front-là, peut-être parce que, au fond, ça arrange bien aussi l'administration américaine. J'espère d'ailleurs que c'est la bonne interprétation.
Et si vous vous trompez ?
Alors, si je me trompe, alors, pour le coup, je pense que, justement, il faudra vraiment revenir sur le manque de cohérence de ces annonces. Pourquoi, par exemple, après avoir eu beaucoup de mal à discuter avec l'administration Obama, qui était quand même autre chose en termes d'ouverture de questions réglementaires, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se mettrait à avoir ces discussions et à espérer trouver un accord avec l'administration Trump ? Pourquoi est-ce que l'Europe entreprendrait une grande négociation bilatérale avec le seul pays qui a dénoncé l'accord de Paris, qui en est sorti ? Alors qu'on annonce l'accord de Paris
sur le climat,
sur la lutte contre le changement climatique comme étant un de nos grands objectifs de politique étrangère. Donc là, vraiment, ça posera un gros problème, je pense, si on va de l'avant avec les annonces qui ont été faites.
On a l'impression, dans ce dialogue entre l'Europe et les États-Unis, qu'il y a deux camps. Il y a le camp allemand au sein de l'Europe et les Français, que les Français et les Allemands, chacun poursuivent un objectif différent.
C'est toujours la grande question en politique européenne de façon générale, commerciale notamment, la cohésion entre les États membres. Pour l'instant, elle a été relativement préservée, mais effectivement, on voit, je ne sais pas s'il faut exactement les appeler français, allemands, mais on voit, disons, des approches un peu différentes, certains qui sont pragmatiques à tout craint, j'allais dire, en disant ce qu'il faut absolument, c'est éviter le clash commercial, en particulier quand on se rapproche du secteur automobile, parce que c'est un peu le cœur du réacteur. Et d'autres qui disent, non, il faut d'abord être cohérent dans notre approche des questions commerciales, dans nos principes. Et donc, et même s'il y a des menaces, il faut rester ferme.
mais on n'a pas l'impression que les Français et les Allemands aient les mêmes intérêts.
C'est vrai parce que regardez l'automobile, hein, les Allemands, l'Allemagne exporte 30-35 milliards d'euros de véhicules et de pièces et composants de véhicules chaque année vers les États-Unis. Nous, Français, n'en exportons quasiment rien directement. Alors, nos équipementiers vendent beaucoup aux constructeurs automobiles allemands qui après vont revendre aux États-Unis. Donc, indirectement, si vous voulez, on exporte effectivement, mais l'enjeu n'est pas du tout le même sur un secteur comme celui-là. C'est particulièrement flagrant dans les deux cas.
Est-ce que ces tensions commerciales, puisqu'il y a déjà des taxes qui sont appliquées, ont un impact économique tant aux États-Unis, vous avez évoqué Coca-Cola, Harley-Davidson, qu'en Europe? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont affectés?
Alors, concrètement, ce qui a été mis en œuvre jusqu'ici, ça reste relativement limité. J'ai parlé des importations d'acier et d'aluminium pour tous les partenaires. Il y a également des taxes aux États-Unis contre les importations de la Chine pour 50 milliards. Ça reste à l'échelle macroéconomique limitée, mais ça a déjà eu un impact.
Donnez-nous un ordre de grandeur. Pourquoi 50 milliards, c'est limité?
Alors, pourquoi est-ce que 50 milliards, c'est limité? Parce que à l'échelle des, si vous voulez, les importations des États-Unis, elles vont être de l'ordre de 2000 milliards de dollars en tout. Donc là, on est à 100 milliards, disons, ça reste relativement faible. Mais déjà, il y a un premier effet qui est un effet d'annonce, si vous voulez. Et en termes de confiance, c'est important, donc à la fois en bourse, mais aussi sur le climat d'investissement. Beaucoup des entreprises qui doutent de ce qui va se passer sur le front commercial vont peut-être retarder, enfin le font déjà, attendre pour investir. Donc ça, c'est un premier impact qui s'est déjà, enfin qui commence à se matérialiser, et ça a compté, on l'a vu dans les enquêtes, par exemple, sur le climat des affaires en Europe. Et puis en plus, il y a, et surtout, il y a le risque d'escalade, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera si, comme l'administration américaine l'a annoncé, elle augmente le montant du commerce qui est touché par des mesures protectionnistes.
Ça concerne beaucoup les Chinois en ce moment, ça, ces menaces.
Apparemment, en effet, surtout dans la mesure, donc elle concernait, et elle concerne d'ailleurs en fait potentiellement toujours l'Europe également sur le secteur automobile, mais il semble, comme on le disait tout à l'heure, que les choses sont en train de s'apaiser sur ce front-là, et donc la menace aujourd'hui concerne principalement la Chine. Les exportations annuelles de la Chine vers les États-Unis dépassent les 500 milliards de dollars, donc là on parle de montants qui sont nettement plus importants et qui pourraient avoir des répercussions significatives.
Alors, le président Trump accuse les Européens, comme les Chinois, de contrer ces hausses de taxes en affaiblissant la valeur de leur monnaie. Qu'en est-il réellement? Est-ce que les Européens et les Chinois jouent avec leur monnaie pour contrer ces hausses?
Je ne crois pas que ce soit, pour l'instant en tout cas, un élément majeur. Certainement pas côté européen. Et même côté chinois, la monnaie chinoise a baissé récemment de environ 5% depuis le début juin. Mais ça s'explique assez bien par des facteurs de marché, c'est-à-dire que l'économie américaine va bien, croît à une vitesse accélérée. Il y a une normalisation de la politique monétaire américaine, c'est-à-dire une augmentation des taux d'intérêt. Ça pousse le dollar à la hausse. Pour les Chinois, baisser leur monnaie, c'est un instrument assez dangereux. Ça touche tous les partenaires, ça peut avoir des effets sur la stabilité financière, donc je pense qu'ils vont beaucoup se limiter de ce côté-là.
Merci Sébastien Jean.
Merci à vous.